شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان.
علی زن حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین
است. الحمدلله، nous sommes à la dernière heure de ce forum Carrefour des métiers ici à Mohamedia Mambarga Bagneux. Là, je suis devant le stand pharmacie. Machallah, j'ai devant moi le représentant de la pharmacie. On va lui poser les questions. Déjà, présentation.
Assalamu alaikum, je suis Mohamed Zafar, donc je gère le stand de pharmacie.
Voilà. Donc, c'était quoi la question du public aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus voulu se renseigner sur le métier de pharmacien. Quelles études faire pour devenir pharmacien? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est lent? Et combien ça rapporte aussi, hein? Donc il y a eu des questions assez intéressantes, diverses et variées.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours après le bac? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir pharmacien?
Bien sûr. Alors ce que j'ai fait, c'est un bac scientifique, un bac S. Après, j'ai fait donc la première année des études de pharmacie. C'est une première année qui est sur concours. Donc à la fin de l'année, vous avez un numerus clausus où vous réussissez ou vous échouez. Donc si vous réussissez le concours, après vous faites encore 5 années supplémentaires. En tout, vous avez 6 années d'études et puis une année de test d'exercice pour devenir docteur en pharmacie.
Suivante, c'est à propos des médicaments génériques, parce qu'en ce moment on voit qu'il y a des petits soucis au niveau des remboursements. Donc si un patient il prend des médicaments génériques, il y a un souci au niveau de sa santé.
Alors la réponse est franche et nette, c'est exactement la même chose. Les laboratoires qui font les médicaments dits princeps, les médicaments originaux, c'est des médicaments qui sont faits normalement, et les génériques c'est exactement la même chose, c'est les mêmes laboratoires qui font. Donc s'ils peuvent faire le vrai, ils peuvent aussi faire le générique. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation à avoir à prendre les médicaments génériques.
Et à propos des médicaments, tout ce qui est homéopathie, est-ce qu'en prenant ces médicaments-là, on peut se soigner?
Les médicaments homéopathiques, c'est des médicaments qui soignent le terrain de la personne. Donc effectivement, si vous avez un terrain particulier, par exemple un terrain allergique ou un terrain où vous avez beaucoup de soucis de santé, vous pouvez agir sur votre santé par un traitement de fond. Par contre, si vous tombez malade et que vous avez besoin d'antibiotiques, là, effectivement, l'homéopathie ne marchera pas. Donc ça traite plutôt le terrain de la personne, ça agit sur le fond et c'est assez efficace. Voilà.
Ma dernière question, c'est à propos de l'hygiène de vie et puis le mal du siècle qui est la maladie du cancer. Donc est-ce qu'on peut avoir des bons conseils du pharmacien?
Alors déjà, généralement, on vous recommande de bien faire attention à votre alimentation. Il faut manger varié, équilibré. N'hésitez pas à manger des fruits et des légumes. D'ailleurs, on dit que si vous mangez une pomme par jour, vous éloignez le médecin. Donc c'est exactement ça. Faites attention à votre santé. Essayez aussi de faire du sport. Faire des activités de marche soutenues, c'est très bien. Et faites attention aux facteurs de risque comme le tabagisme. Il ne faut pas fumer, c'est pas bien pour la santé. Il faut faire attention à la pollution, à l'alcool aussi, hein. Donc tous ces problèmes entraînent effectivement une dégradation de la santé et vous êtes plus sensible aux médicaments, aux maladies, pardon, comme le cancer.
Au niveau des médicaments, est-ce qu'il y a eu des avancées cette année?
Effectivement, il y a quand même des avancées, mais on attend de voir les résultats finaux. Il y aura beaucoup d'avancées sur les traitements, sur le traitement du diabète, aussi sur l'hypertension. On aura quelques médicaments qui vont sortir probablement, mais tout ça prend du temps et il faut laisser justement aux médicaments le temps de sortir, d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Pour terminer, je tiens à remercier les jeunes qui se sont déplacés, qui ont montré leur intérêt pour cette journée. Et puis un grand merci aux organisateurs et à toute l'équipe qui a fait un travail formidable. Merci beaucoup, merci à tous.
Merci.
Khuda Hafiz.
Donc là, presque c'est parmi les derniers stands. Là, j'ai le stand de médecine. Là, j'ai devant moi un ancien de La Réunion. Donc on va commencer par la présentation. Salam alaikum.
Alaykoum salam. Donc oui, en effet, oui, un ancien de La Réunion, Arif Ali Bay, donc qui a fait toute sa scolarité à La Réunion jusqu'au bac. Et puis qui finalement s'est bizarrement un peu lancé dans la médecine avec beaucoup d'éléments qui m'ont orienté dans cette voie-là. Alors j'ai un cursus un peu particulier moi, parce que contrairement à beaucoup de gens, et d'ailleurs maintenant les gens font souvent leur première année de médecine à La Réunion, et puis je crois qu'il y a même jusqu'à la troisième année, et puis après ils changent de faculté. Moi, à mon époque, la première année n'existait pas réellement, donc je suis parti à Bordeaux faire ma première année, et puis j'ai continué toutes mes études à Bordeaux jusqu'à arriver au moment de l'internat où je suis revenu sur Paris pour faire mon internat ici, et maintenant je travaille en milieu hospitalier, donc grosso modo pour être un peu plus précis, je suis dans un service d'urgence cancérologique dans un institut de cancérologie qui s'appelle l'Institut Gustave Roussy, qui est en région parisienne à Villejuif. Donc en poste depuis 2010, où les choses se passent relativement bien. Et pour l'instant, je suis amené à continuer dans le même poste. Voilà, donc...
Les conseils pour être un bon médecin, les pièges à éviter.
Alors, les conseils pour être un bon médecin. C'est difficile d'avoir des conseils pour être un bon médecin parce que, de toute façon, une personne qui... c'est un peu naïf de dire ça, mais une personne qui veut aider les gens fera forcément un bon médecin. C'est vraiment la caractéristique première qu'il faut avoir dans ce genre de métier. Moi, personnellement, je n'avais pas forcément la fibre médicale au départ. C'était pas une conviction. Je me suis lancé dedans un peu par hasard. Mais finalement, les choses sont venues d'elles-mêmes. En pratiquant, en étant en contact en permanence avec des gens qui sont dans la détresse, on apprend à aussi quelque part à aimer son prochain, à le respecter et à essayer de lui venir en aide du mieux qu'on peut. Sur le plan pratico-pratique, pour réussir au niveau en médecine, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a pas d'entrée dans une école de médecine avec un dossier ou quoi que ce soit préparé au lycée. Grosso modo, c'est le bac de préférence scientifique en poche. Et puis on rentre dans le domaine de la faculté. Première année de médecine, tout le monde le sait, c'est un concours. Un concours avec grosso modo entre 10 et 13% de réussite selon les facultés. Il n'y a pas vraiment de faculté qui réussissent mieux que les autres ou quoi que ce soit, selon moi. Je pense que de toute façon, un bon élément qui travaille réussira quel que soit l'endroit où il sera. C'est une année de sacrifice, voire deux années de sacrifice selon si on redouble ou pas. Redoubler sa première année, c'est pas un problème en soi. Ça ne change pas grand-chose sur l'issue des études. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vite on se met dans le bain de la première année de médecine, plus on a de chances d'avoir son concours dès la première année. Se mettre dans le bain, c'est vraiment travailler à longueur de journée, avec très peu de pauses. C'est un réel sacrifice. Tout le monde le dira, tous ceux qui sont passés par cette étape le diront. C'est la même chose que pour une prépa HEC ou une maths sup, c'est selon moi à peu près à niveau équivalent. On ne demande pas à quelqu'un qui entre en médecine d'être un surdoué, on lui demande surtout d'être un travailleur forcené. Et on teste un peu cette année de... Je pense que cette année de sélection est faite pour sélectionner justement les gens qui sont capables de se mettre dedans, de consacrer leur temps à leur travail. Donc voilà, travailler. Il faut probablement passer en parallèle par une école de préparation au concours de la première année, qui elle est payante, donc c'est des structures privées.
Les prix, je ne les connais pas forcément, mais je ne pense pas que ça dépasse les 5 000 euros l'année. Et qui permet, contrairement au monde universitaire où on est un peu laissé à l'abandon, d'avoir un programme qui est bien établi avec des dates butoirs de contrôle continu, etc. et d'avancer progressivement dans son cursus et dans son programme sans se retrouver débordé à un moment donné et devoir travailler tout à la fin. Comme ça se passe souvent quand on est jeune dans des universités. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'après la première année, il y a une deuxième échéance qu'on appelle l'examen de classement national, qui arrive au terme de la sixième année de médecine, qui est à considérer comme un second concours, qui se prépare correctement à partir de la quatrième année. C'est en fait jusqu'à la sixième année, c'est un tronc commun. Tout le monde fait ses 6 ans d'études, avec jusqu'en quatrième année quasiment purement que de la théorie. À partir de la quatrième année, on commence à avoir une pratique aussi hospitalière tous les matins et l'après-midi, travailler ses cours, etc., s'améliorer sur le plan théorie. La sixième année, donc, à partir de la quatrième année, on prépare donc un concours qui aboutit, qui a lieu en sixième année. Et c'est un concours qui permet d'avoir, si on a réussi, la spécialité qu'on veut et l'endroit où on va faire son internat pour se spécialiser. Donc au terme de la sixième année, une fois qu'on a choisi sa spécialité, on rentre dans ce qu'on appelle l'internat. L'internat qui est considéré encore dans les études médicales, parce qu'on est encore étudiant, mais on a un travail purement pratique, quasiment pratique. On est à l'hôpital, on fait des stages de 6 mois, on change tous les 6 mois de stage. On est payé, on est rémunéré, donc on peut construire sa vie. Il ne faut pas avoir peur, selon moi, en se disant que la médecine, c'est des études longues. C'est des études longues, mais finalement, à partir de la sixième année, on gagne sa vie et on peut très bien fonder une famille, etc., dès la fin de la sixième année. Donc, il ne faut plus avoir cette peur des études longues, etc. Maintenant, tout le monde fait des études longues de toute façon. Donc, à partir de la sixième année, on entre dans le cursus de l'internat où on va apprendre sa spécialité. Par exemple, la cardiologie, les internes vont faire exclusivement de la cardiologie pour apprendre leur métier de cardiologue. La néphrologie, ainsi de suite, la médecine générale, c'est une spécialité aussi. Donc, ils vont faire 3 ans de spécialité en médecine générale, etc. Tout ça pour aboutir au bout de leur internat avec le passage de la thèse, le titre de docteur en médecine et pouvoir s'installer ou en carrière hospitalière ou en milieu libéral.
Alors, une petite précision, la première année de médecine regroupe plusieurs entités. Il y a certes la médecine, il y a dentaire, il y a, je crois maintenant, pharmacie, probablement kiné, mais je ne suis plus sûr exactement de ce qu'il y a précisément comme branches qui vont commencer à partir de cette première année. Tout est accessible. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier supérieur à un autre. Tout dépendra vraiment de la volonté de chacun. C'est accessible. La médecine est accessible de la même façon que dentaire est accessible, pharmacie est accessible. Tout est accessible à partir du moment où on est sérieux et on travaille. Donc la seule vraiment nécessité pour réussir, c'est d'être sérieux, de faire preuve d'abnégation, de pouvoir travailler, de se consacrer vraiment pendant 1 an à la préparation de ce concours. Pour celui qui veut absolument faire médecine, par exemple, et qui finalement se retrouve à ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ses études et à d'autres places. Le domaine médical et paramédical est vaste et je pense qu'on peut trouver de quoi se satisfaire vraiment dans ce milieu-là. Évidemment, on a conscience que quelque part, première année médecine, c'est un peu finalement comme ça qu'on intitule première année médecine, sous-entend qu'on entre dans des études médicales. Mais ce n'est pas forcément un but en soi. Et c'est pas, les autres branches ne sont pas à considérer comme étant inférieures à celle-ci, ou les autres branches ne doivent pas être considérées comme supérieures, ou, etc. Mais je pense que tout le monde peut trouver son domaine de prédilection parce que c'est un sujet qui est très vaste et qui a de toute façon le même objectif, quelque part, aider
les gens. Et voilà, j'ai pas vraiment de conseils, mais en tout cas, celui qui s'embarque dans ce genre d'études, il faut qu'il soit prêt à travailler de manière efficace et soutenue, et ça ira. S'il est sérieux, s'il est régulier, s'il travaille de manière intensive, de manière très, très régulièrement, on n'a pas besoin d'être Einstein, ça ira logiquement de soi. Les gens y arrivent, j'y suis arrivé, beaucoup de gens y arrivent malgré tout. Et il faut juste être voilà, un minimum sérieux. Et voilà. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir prêté attention. En tout cas, je profite de cette petite interview pour faire mes grands salams à toute la famille et à tous les amis qui sont notamment à La Réunion. Je pense fort à eux. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans certaines occasions. Voilà. Merci beaucoup. Coup d'affiche.
Inch'Allah, donc on avait vu parmi les stands, il y avait un stand CV. On va poser à Joël Baye quelques questions à propos de cet après-midi. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de changement de CV, conseils sur les CV?
Alors, c'est un coup. Donc oui, en effet, on a eu beaucoup de demandes. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de temps. Parce que pour faire un CV, une lettre de motivation, ça prend beaucoup de temps. Et généralement, tous les CV sont différents et tous les parcours sont différents. Donc malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde. Mais globalement, ça s'est très bien passé.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils à éviter, les pièges à éviter quand on rédige un CV?
Alors, quand on rédige un CV, le plus grand piège, c'est de faire des phrases. Il ne faut pas faire des phrases et il faut utiliser que des mots et que des mots-clés. Voilà, pour ajouter, pour me présenter un petit peu pour les auditeurs de Côte TV. Donc moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour des cabinets de recrutement. Donc j'ai vu entre 1000 et 2000 CV peut-être tout au long de ma carrière et j'ai fait passer autant d'entretiens.
Et au niveau de la lettre de motivation, est-ce qu'il y a des conseils?
Alors, la lettre de motivation, c'est surtout faire très attention aux fautes d'orthographe. Il faut qu'il n'y en ait pas une seule. C'est vraiment mon conseil que je donne à tout le monde et à tous les jeunes. C'est vraiment de travailler sur les fautes d'orthographe.
Qu'est-ce qui permet à un recruteur de lire un peu plus un CV qui est déjà devant un CV qui est du candidat?
Alors, ce qui va permettre de vraiment qu'on puisse lire un CV plus qu'un autre, c'est vraiment lorsque la personne va utiliser des mots que nous, on a envie d'entendre. Par exemple, demain, vous voulez postuler pour un poste de vendeur. Si vous mettez que vous avez négocié des prix, que vous êtes parti vers des clients, automatiquement, inconsciemment, ça va réveiller chez nous l'envie de lire le CV et de vous appeler. Mais si vous mettez autre chose, mais qu'il n'y a pas ces mots, vous passerez à côté d'une opportunité. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de chômage. Mais le chômage, si vous voulez, si on est aidé par des gens qui vont nous aider à faire un CV et une lettre de motivation, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, on arrive à aider des personnes qui, pendant 10 ans, n'auront pas travaillé. Et du jour au lendemain, on va les aider à faire un CV. On sait ce que les recruteurs attendent, qu'est-ce qu'ils veulent comme expérience et on va toujours faire le rapprochement. Donc moi, pour l'avenir, je suis très optimiste. Je trouve qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en France, il y a un peu plus d'un million d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Et pourquoi? Parce que les gens ne savent pas faire les CV. C'est la seule raison.
Une dernière question pour les gens qui sont un peu réservés, timides. Quelle attitude on doit avoir face aux recruteurs?
Alors, l'attitude qu'il faut avoir, c'est vous allez chercher un emploi. Donc, quand vous allez chez le recruteur, vous allez chercher un emploi. Mais lui, s'il accepte de vous recevoir, c'est que lui cherche quelqu'un. Donc, c'est plus le rapport de force n'est plus comme ça, mais il devient comme ça, à l'équilibre, 50-50. Donc, il n'est pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues. Non, il est là pour vous connaître. Donc, il faut toujours partir de ce principe-là, que c'est une relation d'égal à égal. Et maintenant, moi, je pense que pour les personnes qui sont au chômage, qui n'ont pas le travail qu'ils ont, le travail qu'ils ont envie d'avoir, qui font un autre travail, moi, le conseil que je leur donne, c'est vraiment revoyez vos CV, votre lettre de motivation, et n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un, parce que l'aide, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, dans notre communauté, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont susceptibles d'aider les uns et les autres. Donc, profitez de cette aide et vous verrez, tout se passera très bien, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous les auditeurs de Causa TV qui vont nous regarder, qui nous écoutent. Et à très bientôt, Inch'Allah. Khouda Hafiz.